musique avec Serge Lacasse et Gérald Côté. Parlons musique.
Allô Gérald, comment vas-tu?
Ça va super bien. On est prêt pour un autre thème, cette fois-ci avec un invité spécial.
Ben oui.
On va parler, on a déjà parlé de musique et technologie, mais là on va parler de techno comme musique.
Donc la musique du genre musique techno, si on veut.
Exactement.
Puis notre invité, ben c'est nul autre que Jonathan Côté. Est-ce qu'il y a un lien de famille Côté?
Peut-être. À vérifier, là, je vais aller voir sur mon passeport.
On est bon, du même côté.
Ah bon, c'est bon. Bonjour Jonathan, comment vas-tu?
Ça va très bien.
On est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On te connaît, évidemment, Gérald te connaît bien. T'es son fils et tout, mais je te connais aussi parce qu'on a eu l'occasion, entre autres, de discuter de ta musique, soit à la faculté, puis même... Sinon, ben, on se parle relativement souvent. Donc, on est très content de t'avoir avec nous. Puis, on t'invite parce que on aimerait justement discuter de musique techno en tant que genre musical. Puis toi, ben, t'es vraiment quelqu'un d'important quand même sur la scène techno québécoise, peut-être même plus vaste. Puis, on aimerait ça en parler de ça avec toi.
Mais ben, vu que tu as dit plus vaste, je vais en profiter juste pour introduire là, Jonathan, qui
ben
a
oui.
quand même eu des contrats, des gigs, comme on dit en russe, au Japon, ou à La Réunion, en France, d'autres endroits, Jonathan?
Ouais, je dirais que c'est pas mal ça. France, Japon, Réunion, ouais, je dirais
évidemment,
que c'est
pas mal.
Oui, plusieurs places au Québec, au Nouveau-Brunswick aussi.
Ça va sûrement alimenter quelques-unes de nos questions, vu que tu as eu une expérience de DJ, mais sur le plan international.
Mais tu vois, moi j'ai déjà une question, qui est toujours, Gérald, tu vas me reconnaître, la même question de départ. Là, on parle de musique techno, mais tu sais, moi je suis pas un grand connaisseur de musique techno. Je connais peut-être un style, parce qu'il y a un DJ que je connais, qui est DJ Mercurius, puis lui qui fait du hardcore, puis ça roule à 180 BPM, puis avec beaucoup de sons distorsionnés. Ça, c'est un sous-genre que je connais, mais la techno, là, je suis pas mal certain que comme le métal, ça se subdivise en plusieurs genres. Puis j'aimerais ça, Jonathan, peut-être juste nous un peu nous décrire le genre que tu fais, puis où tu te situes par rapport au genre techno au pluriel.
Oui, effectivement, la musique techno, musique électronique, ne finit plus de se subdiviser. Il y en a des branchements à l'infini. Puis il y en a toujours des nouvelles variantes d'un style qui existe déjà, qui sont inventées ou qu'on découvre. Étonnamment aussi, les gens ne viennent qu'à avoir vraiment des goûts très, très spécifiques. Avec plus le temps passe et plus ils sont dans le milieu de la musique électronique, plus leurs goûts deviennent très, très pointus. Et des fois, il y en a qui vont ne jurer que par un sous-style en particulier, puis pas le reste.
C'est intéressant, Jo, que ce que tu dis, Jonathan, parce que, bon, dans mes études en musique, il y a des styles qui se divisent comme le rock, rock metal, rock progressif et tout ça. Mais dans la musique techno, la carte que j'ai vue là avec les branches et les divisions, il y en a des centaines et je parle de plusieurs centaines. Comment t'expliques ça?
Ben c'est difficile à dire en fait parce que bon, j'ai pas nécessairement les références là pour comparer avec l'évolution des autres styles musicaux. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose qui se fait comme assez organiquement, je dirais. Là. Donc, les gens, à force d'écouter, en fait, trouvent des caractéristiques pour essayer de définir un style. Puis après ça, ben définissent un peu mieux aussi qu'est-ce qu'eux, ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Puis finissent par se frayer un chemin. En fait, quand tu rentres dans la musique électronique, puis j'imagine que ça va être un peu vrai dans n'importe quel style de musique, au départ, ça sonne tout sonne à peu près pareil. Et plus tu écoutes, plus t'en écoutes, plus tu te rends compte qu'il y a vraiment toute une variété. Et là, tu finis par préciser un peu qu'est-ce que t'aimes là-dedans, qu'est-ce que t'aimes moins. Mais au début, c'est vraiment comme la musique techno, c'est un grand groupe. Puis plus t'en écoutes, plus ça devient vraiment plein de saveurs différentes finalement.
OK, donc c'est... Non, je suis d'accord avec toi, pas seulement pour les styles, c'est vrai. Par exemple, pour les oiseaux, je donne l'exemple de ma mère. Ma mère, quand j'étais jeune, j'étais, bon, ornithologue amateur. Puis là, je dis, hey, regarde, je sais pas moi, le carouge à épaulette. Puis elle dit, ah oui, c'est un oiseau noir. Tu sais, pour elle, c'était tout pareil. Mais à un moment donné, elle s'est mise à s'intéresser à ça. Puis là, d'un coup, elle était rendue capable de distinguer non seulement les espèces, mais même, ah ben c'est un mâle ou une femelle, moineau, tu sais, ou je sais pas quoi. Donc, effectivement, dans n'importe quoi dans la vie, quand on arrive dans... Puis qu'on n'a pas de connaissances, qu'on n'a pas fréquenté un truc, ben là, au début, ils se ressemblent tous, tu sais, comme les Chinois se ressemblent tous ou je vois quoi. Puis là, dès qu'on se met à interagir avec le phénomène en question, ben on en vient qu'à être sensible aux nuances puis aux détails de chacun puis tout ça. Donc, ma question, Jonathan, toi, dans ton cas, ça serait quoi justement ton sous-genre ou tes sous-genres dans lesquels, avec lesquels tu es à l'aise? Puis comment ça s'appelle? Puis qu'est-ce qui les démarque?
Oui, en fait, bonne question. Puis en même temps, c'est particulier pour moi, cette question-là, parce que plus ça va... En fait, je dirais que quand j'ai commencé au début à faire de la musique techno, j'essaie vraiment de me définir avec un style très pointu, très particulier. Et tu dis, bon, je vais essayer de me faire comme reconnaître pour tel ou tel son. Mais après ça, c'est un peu une prison, hein, finalement, que tu bâtis, parce que tu restes pogné là-dedans. Et après ça, pendant des années, j'ai essayé de défaire un peu l'espèce d'étiquette que je m'étais créé moi-même pour devenir un producteur et un DJ qui pouvait faire la musique que je voulais et jouer la musique que je voulais, peu importe le style. Bon, peu importe le style, à l'intérieur de la musique techno, on s'entend, mais j'essaie de faire tomber un peu les espèces de barrières mentales que les gens ont dans les styles musicaux. Et la façon que j'approche ma musique maintenant, c'est pas une question d'étiquette ou de style, c'est plus, je dirais, une ambiance que je cherche à créer. Puis, je vais essayer de visualiser, mettons, un moment en particulier. Je fais ça autant quand je produis que lorsque je prépare un DJ set pour aller jouer de la musique de d'autres dans un événement. J'essaie de fermer les yeux puis visualiser l'événement à ce moment-là. Quelle est la musique qu'on va avoir besoin à ce moment-là pour que ça marche bien pour tout le monde? Et c'est comme ça que je fonctionne. Puis cette question-là, elle ne se répond pas avec un style en particulier ou une étiquette en particulier. Je me laisse la possibilité de varier un peu d'un style à l'autre à l'intérieur de la musique électronique. Mais bon, pour définir un peu, je dirais, ce que je fais comme musique ces temps-ci, en tout cas, je dirais que on parle de progressive house, de house progressif. Mm-hmm. Donc, je dirais que c'est une espèce d'hybride entre la house, la techno, mais avec aussi des éléments un peu plus... mélodique, beaucoup d'arpèges, d'espèces de sons vraiment cycliques dans lesquels on peut vraiment se perdre, partir un peu en espèce de transe si on veut. Et c'est des chansons qui sont quand même assez longues, donc on parle des chansons de peut-être 8, 9, 10 minutes et où tous les éléments vont se bâtir et se rajouter vraiment de manière très, très progressive.
Progressive, OK. Oui, je pense, j'en ai donc, je vois. Mais pour le bénéfice des auditeurs, là, on va probablement faire une espèce de petite playlist, là, comme on fait habituellement, en tout cas, pas toujours, mais souvent, de ta musique, puis peut-être d'autres genres là, c'est-à-dire d'autres artistes que tu trouves pertinents là, pour nous parler de ça. Donc, OK. Donc, une espèce de house prog, ce que tu fais, donc.
Mmh. Avec L'élément progressif, c'est-tu dans le développement de ta structure de base ou comment tu le définis, là, l'élément progressif dans ton approche?
Ben, en fait, c'est honnêtement, je dirais que c'est une étiquette qui est accolée à certains codes, certaines façons de structurer les chansons. Donc, j'ai plus mis cette étiquette-là parce que justement, la structure de mes chansons rentrait un peu là-dedans. Mm-hmm. Mais j'utilise pas nécessairement cette étiquette-là comme manière de me définir ou de définir ma musique plus qu'il faut. C'est plus pour donner un point de référence aux gens à qui on en parle. Mais d'une production à l'autre, je peux varier un peu quand même aussi. Puis Il y a toujours certains trucs qui ressortent, même à l'intérieur de ces styles-là. C'est que je vais souvent aller rechercher un élément un peu plus qui graffigne un peu, là, un peu avec des sons un peu distorsionnés, avec un peu comme le vieux électro que j'ai joué beaucoup il y a une certaine époque. Donc, je ramène un peu de ces sons-là des fois, puis des inspirations aussi d'industriels, des choses comme ça, que je vais toujours amener un petit rappel.
Un assaisonnement.
Un petit assaisonnement. Ça permet d'avoir un style qui n'est pas nécessairement exactement la même chose que les gens sont habitués dans la Progressive House. Mais aussi, c'est pour mon propre plaisir.
OK. Puis donc, si je comprends bien, tu commences, par exemple, là, j'ai pas de pièce en tête, mais typiquement, j'imagine, ça commence avec quelque chose de relativement épars, là, c'est-à-dire qu'un beat de drum, probablement, peut-être juste un kick, un hi-hat, je sais pas quoi, puis là, d'un coup, tu ajoutes des éléments de plus en plus qui interagissent, mais ça se fait à long terme, disons, dans ton développement, là, d'un bout à l'autre, peut-être aux 32 bars ou je sais pas quoi, t'as-tu... Est-ce que c'est quand même très régulier, le moment où s'ajoutent les éléments?
Assez. Okay. Assez. En fait, quand je le fais, je le compte pas comme tel, mais invariablement, quand je réécoute ma chanson après, je constate que ça suit une espèce de progression où il y a des changements à peu près à tous les 32 bars.
OK.
Parce que à force d'écouter de la musique techno, de danser cette musique-là dans les événements, ton cerveau, on dirait qu'il vient comme qu'à être programmé, tu sais, une certaine structure, puis tu la reproduis instinctivement sans trop te poser de questions.
Non, je comprends.
Là, tu as touché un point qui me paraît important. La musique techno, à la base, c'est une musique festive qui invite à la danse, qui invite le corps, qui invite à bouger, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Donc, c'est un des aspects qui m'intéresse comme ethnomusicologue, c'est comment ça se passe, le concert, la danse, les gens qui bougent ensemble, la partie festive. J'ai pu assister à quelques-unes de tes performances et puis je trouvais ça particulier et très enrichissant, très vivant de voir que tout le monde bougeait. C'était véritablement un gros partage. Uh-huh. Est-ce qu'il y a, bon, par rapport à cela, il y a... c'est qui les gens? Qui compose ce public-là particulier?
Ben, ça peut varier. C'est sûr que je dirais que le milieu a évolué un peu. Si on s'était parlé il y a 15-20 ans, à l'époque où je mixais plus dans les raves, c'était pas nécessairement le même contexte. C'était pas à la même heure, pas avec le même monde. Et la communion se faisait pas de la même façon aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui proviennent de la scène rave des années fin des années 90, début des années 2000, qui, bon, évidemment, ont grandi, ont des enfants, ont un quotidien qui laisse moins place à faire des nuits blanches la fin de semaine. Et ils ont quand même gardé la musique électronique dans leur quotidien, donc en l'écoutant ou en allant à d'autres types d'événements où tu peux avoir cette musique-là, ce qui a mené il y a plusieurs années à la naissance du pique-nique électronique à Montréal. Puis c'est un peu, je dirais, une espèce de réponse aux besoins des anciens ravers d'avoir de la musique techno à des heures qui ont de l'allure. T'sais.
OK, donc...
c'est intéressant.
Si je t'entends bien... Ça veut dire que, un peu comme les rockers des années 60, ils ont leur rock a un petit peu évolué, mais eux autres, ils ont ramène avec eux les anciens fans. Fait que là, ma question, ça va être bon, mais qu'est-ce qu'ils écoutent les nouveaux jeunes d'aujourd'hui, eux autres dans le techno, est-ce qu'ils écoutent ce genre-là aussi, ou si s'il y a d'autres sous-genres de techno qui sont plus appropriés aux jeunes de, mettons, 15-20 ans? Là?
Oui, les nouvelles générations, génération montante.
Ben, en fait, il y a quand même toute une variété de ce côté-là aussi. Puis, il y a une espèce de dualité ou de paradoxe, je dirais, dans le sens où tu as des jeunes qui arrivent, reproduisent une espèce de penchant plus commercial qui s'est développé avec les années de la musique techno, puis finalement ce qui se développe avec à peu près n'importe quel style qui était underground avant puis qui finit par être assimilé par la masse. Et il y a aussi des jeunes qui arrivent, et ça m'a toujours vraiment marqué, qui des fois ça peut être des adolescents là, qui font des qui produisent la musique sur le laptop de leurs parents dans leur sol et que tu écoutes leur musique puis il y a une espèce de richesse dans le sens où tu entends dans les sons utilisés, dans les structures utilisées, une espèce de on peut reconnaître la connaissance de l'histoire de cette musique-là. On peut entendre les références à ce qui s'est fait avant. Il y a des pièces où, évidemment, quelqu'un, à première vue, ne verrait pas la différence. Sauf que, pour une oreille avertie, on est capable de voir toutes sortes d'indices à l'intérieur de la chanson qui indiquent que cette personne-là elle a une connaissance très, très pointue de la musique électronique et de son histoire. Et je vois aujourd'hui la musique qui est produite par des très, très jeunes. Puis je dis, my God, ils ont vraiment fait cours de rattrapage en accéléré parce que dans la musique qu'ils produisent, il y a toutes les références de l'histoire de la musique techno des 20 dernières années.
OK, c'est un peu comme dans le hip-hop, quoi, dans le hip-hop.
Ben, en fait, c'est comme toutes les musiques, à mon avis. Mm-hmm. C'est-à-dire, la musique dite classique, ben, plus on avance dans le temps, plus on peut référer à un passé lointain, et dans le jazz aussi, là, les derniers siècles de jazz englobent les autres, ils font des références directes, indirectes. Donc, je pense que c'est le passé, c'est l'être humain dans son rapport avec le temps, sa mémoire qui ramène tout. Et on peut pas repartir à zéro à chaque fois. Donc, en tout cas, je trouve que c'est un phénomène qu'on retrouve dans les autres grands styles. Là,
oui. Mais je reviens au public. Mais en fait, il y a deux choses. J'ai deux éléments qui m'intéressent. Là. Mais un, c'est justement l'esprit. En tout cas, ce que j'entends de ce que tu as raconté tantôt, c'est qu'il y a un esprit un peu plus communautaire aujourd'hui, même si déjà dans le rave, il y avait cet esprit-là, mais c'était plus aussi une espèce de, pas une fuite, mais un moment particulier là, pour les ados, là, bon, tout ça. Mais aujourd'hui, donc, si je comprends bien, ceux en tout cas qui participent aux événements auxquels que toi-même tu contribues, il y a peut-être un côté plus collectif, communautaire qui s'installerait. Tu penses que qu'est-ce que tu en penses?
Oui, tout à fait. Il y a vraiment une espèce de feeling de communauté, de connexion avec les gens. Puis ça, ça vient vraiment des racines, des raves, qui c'était vraiment, justement, c'est la base même de l'existence de ces événements-là et de la musique qui va avec. Et puis, tout ce qui est venu après découlait de ça. Donc, c'est encore plus fort, je dirais, même dans la naissance des raves dans les années 80-90. Une espèce de sentiment de communauté.
D'appartenance,
tout à fait. Très, très, très fort. Évidemment, qui a évolué un peu aujourd'hui, où les gens vont un peu se reconnaître encore. Puis ils gardent toujours une espèce de... ce sentiment de communauté-là va toujours rester en filigrane, même si on est avec des gens, justement, qu'on connaît pas, avec des... il suffit d'avoir partagé un moment sur une piste de danse. Sur une chanson qui unit, qui vient nous rejoindre, nous et une autre personne ou d'autres personnes. Puis après ça, ben c'est comme si, après avoir vécu un moment comme celui-là, on se comprend.
Mm-hmm.
Donc, y a-tu, moi, ça m'amène une question. Ben, vas-y, Serge, t'as...
Non, je te laisse.
Ah, OK. Les rapports intergénérationnels, il y a toujours le plus vieux ou l'ancien ou le dépassé, là, à un moment donné, on avance un peu comme ça. Est-ce que, bon,
pourquoi
dans le...
Pourquoi je me sens visé?
Je me parle à moi-même, là. Est-ce que, tantôt tu parlais des nouvelles générations, est-ce qu'il y a ce rapport-là que le techno auquel toi appartiens est en train de devenir passé date par rapport à un autre techno qui s'installe, par rapport à la nouvelle génération?
Aussi encore,
oui, non. En fait, ce qui est spécial, puis bon, en fait, je dis spécial, mais je pense que vous allez sans doute pouvoir dire que ça existe dans quasiment tous les styles, c'est que les sonorités, les styles, c'est une question de cycle. Donc, il y a des... si on regarde, par exemple, il y a peut-être 20 ans, dans les raves, on avait une musique techno, justement, pas dans le sens de la grande catégorie, mais vraiment le sous-style techno, qui est un style beaucoup plus répétitif, beaucoup plus dur, beaucoup plus robotique, si on veut, qui, justement, était très populaire dans les raves. Et Mané, ce style-là est un peu tombé en popularité, tombé dans l'oubli pendant peut-être une dizaine d'années au moins. Mais là, il y a un gros regain de popularité de la techno pure et dure, comme il se faisait dans les débuts des raves. La techno vraiment plus dure et c'est de retour. Et les jeunes aujourd'hui qui commencent à faire de la musique, il y en a qui vont embarquer dans cette vague-là qui finalement est une espèce de cycle où on ressort un style qui date d'il y a 20 ans à peu près. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est juste qu'on le refait aujourd'hui. Par contre, c'est ce que je constate en écoutant les chansons, on le fait avec des moyens de production qui ont évolué beaucoup. Donc, à l'époque, en gros, il y a 20-30 ans, la techno, c'était en gros un Roland TR-909 avec peut-être deux, trois autres synths. Puis, le mixdown était fait de manière assez rudimentaire. Aujourd'hui, les productions sont vraiment très, très travaillées avec toutes sortes d'effets, de plugins, tout ça. Quand on écoute une chanson d'aujourd'hui ou une chanson d'il y a 20-30 ans, on voit tout de suite, juste par la qualité de production ou la finesse de production, qu'on sait dans quelle époque on est, mais on entend encore les référents puis le style de ce qui se faisait avant. Tandis que lorsqu'on écoute une vieille track, par le côté un peu, je dirais, faite sur le rough, c'est un peu plus carré comme production, on le reconnaît tout de suite que c'est une chanson qui vient des années 90, début 2000.
Ça me rappelle une anecdote qui m'est arrivée en cinéma. Je reviendrai sur la question du tempo après, mais je vous raconte cette anecdote-là puis qui en dit long justement sur l'importance de, je dirais, la qualité du son, mais aussi la qualité de l'image. C'est Psycho, le film Psycho de Hitchcock, fait en 1960. J'étais allé voir avec mon prof de l'époque en Angleterre. Il y avait une projection de Psycho, l'original, dans le cinéma. Puis là, quand arrivent les scènes épeurantes, la douche, puis tout ça, mais t'entendais le monde rire un peu, puis ils trouvaient ça drôle, tu sais. Puis, en 92, je pense, il y a quelqu'un ou un petit peu plus tard, quelqu'un qui a, c'est plus de 2000, quelqu'un a refait un remake à peu près séquence par séquence de Psycho, donc à peu près des mêmes angles et tout, aussi fait à l'époque, c'est-à-dire le décor, c'est l'époque des années 50, 60, comme dans Psycho. Mais puis avec la musique originale en plus rejouée, mais toute évidemment en couleur, mais les mêmes séquences, donc les mêmes changements de plan, juste les acteurs sont pas les mêmes, mais il a trouvé des gens qui ressemblaient quand même. Donc refaire un Psycho le plus proche possible, mais avec le son d'aujourd'hui puis la qualité d'image d'aujourd'hui. Et là, je suis allé à une projection de ça, et là, tout le monde était rivé sur son siège, puis complètement absorbé, puis il avait peur, puis il criait. Donc, même si le contenu, entre guillemets, est à peu près le même, le contenant est devenu de plus haute qualité. Et donc là, ça a recréé ce lien-là, je dirais, entre le contenu et le public. Puis je pense que qu'est-ce que tu nous racontes par rapport au son techno, oui, il y a un intérêt pour ça. Il y en a qui vont triper sur le fait que c'est ancien, puis on l'entend très bien. Mais la jeunesse, je dirais, la jeune génération d'aujourd'hui va se sentir beaucoup plus, je dirais, va s'identifier beaucoup plus à un genre où on entend justement la nouveauté. Puis je sais pas qu'est-ce que tu penses de cette analogie-là.
Ben, en fait, je sais pas si les gens... J'imagine effectivement que les jeunes qui écoutent une vieille toune techno vont tout de suite dire « Ouais, ça c'est une vieille toune, on voit que ça sonne un peu tout croche. » Mais en même temps, c'est un peu... Tu sais, quand je réécoute, là, je réécoute des trucs justement que j'écoutais il y a 15-20 ans, puis je suis comme... Tu sais, c'était fait sur le rough, mais maudit que c'était bon pareil. Ça te remet un peu sur c'est quoi les bases de ce qui t'accroche dans la musique. C'est-tu bon? Évidemment, oui, tu veux un certain niveau de production. Surtout quand tu es un producteur, tu te mets à voir tous les détails puis les gogosses d'un tune que les autres ne voient pas. Mais ultimement, je me rends compte avec le temps qu'une bonne tune, ça tient à pas grand-chose. Il suffit de 3-4 sons qui sont vraiment à bonne place, un bon riff, un bon groove, Puis souvent, c'est les tunes qui t'accrochent le plus, c'est celles qui ont le moins de choses qui se passent dedans. Donc, c'est vraiment, il suffit de un ou deux éléments qui t'accrochent. Puis, c'était pas, justement, c'était pas dans les feux d'artifice de production, c'était vraiment raw. T'sais. Donc, c'était, t'avais l'idée d'en face, puis fait que si tu l'aimais, ben, c'était ça.
Donc, en fait, les idées sont plus importantes que l'enveloppe.
Ouais,
l'esthétique.
Je dirais aussi que dans les pièces que, justement, il y a 15-20 ans, puis, mais en fait, ça, c'est quand moi j'ai commencé, mais sinon, les raves comme tel, ça date plutôt des années 80, les premiers, là, sauf que il y avait une espèce de découverte aussi où les moyens de production étaient un peu, pour la musique électronique, au stade d'expérimentation, puis bon, ça l'est toujours un peu aujourd'hui aussi, mais tu voyais justement les producteurs qui essayaient plein de choses pour la première fois. Aujourd'hui, c'est bien dur de faire quelque chose pour la première fois là, en production musicale, parce que bon, tout le monde a les mêmes plugins, tout le monde a les mêmes vu les mêmes tutoriels sur YouTube, puis tout le monde se copie un peu. Mais à l'époque, il y avait une espèce de défrichage qui se faisait où les gens apprivoisaient les moyens de production avec les moyens du bord, puis se mettaient à utiliser toutes les machines de manière qui n'avait pas du tout été prévue, juste pour voir qu'est-ce que ça pourrait bien donner si je fais telle affaire avec. Et puis, il est né de ça, toutes sortes de techniques et toutes sortes de sons que les gens découvraient pour la première fois. Moi, à partir du moment où quelqu'un l'avait fait, il y en a eu 20 millions pour les copier après, mais à cette époque-là, tu avais beaucoup de trucs qui se passaient pour la première fois.
C'est intéressant aussi, ça.
Tout à fait.
En fait, je me demandais, parce que bon, il y a un autre, il y a un étudiant, ben là, il n'est plus étudiant, il a fait son doctorat l'année passée, il s'appelle Éric Boulay. Lui, il a fait de la recherche à un moment donné sur justement sur les sons, puis la piste de danse, puis il s'est rendu compte, en fait, que ce que tu dis, je suis parfaitement d'accord avec toi, que le contenu est super important, mais en même temps, lui, il se rendait compte que si, par exemple, le niveau des basses ou le volume du kick ou des éléments comme ça n'étaient pas au bon endroit par rapport au genre, ben les gens embarquaient pas. Qu'il y a quand même des éléments, peu importe là, ce qu'il y a par-dessus, dans la construction du son, qu'il faut qu'ils soient respectés comme des espèces de normes, j'imagine, pour faire en sorte qu'il y ait, oui, c'est ça, qu'il y ait une espèce d'échange. Puis en plus, s'il y a un hook particulier ou un élément particulier dans la toune, ben là, tu embarques. Donc, serais-tu d'accord avec moi pour dire que d'abord, il y a comme une base stylistique qu'il faut respecter, puis puis ensuite, ben là, les winners puis les moins winners ressortent, même si ils ont respecté ces normes-là.
Oui, tout à fait. Puis, mais je me permets de faire un peu de chemin sur un truc que tu mentionnais. Ouais. C'est justement un des défis, puis une des clés en même temps de la production de cette musique-là, c'est de trouver comment faire pour que ça sonne bien sur un système de son avec 100 000 watts de son. Puis, tu l'écoutes, tu fais une chanson, tu l'écoutes chez vous, tu l'écoutes dans ton char, tu l'écoutes dans ton iPod, elle est bien belle, mais ultimement, le test, c'est comment ça va sonner quand je vais être sur un gros système de son avec 1000 personnes.
12, qui des 16, ouais, c'est ça.
Puis, ça peut être bien, bien traître. Puis ça implique de travailler beaucoup dans les très, très basses fréquences, les fréquences que souvent on n'entend même pas sur notre système de son à la maison, mais qu'avec un gros système de son, avec un sub, ça va tout faire shaker la place au complet. Mais si tu la fais trop shaker, ça va juste comme cacher tous les autres sons dans la tune aussi. Donc, il y a vraiment une espèce de travail hyper précis et pointu à faire dans les basses fréquences pour essayer d'aller chercher ce oomph-là qui est un peu invisible à l'œil nu, mais quand tu joues sur une piste de danse, tu le sais tout de suite, mais sans en mettre trop non plus, parce que sinon, tu perds tous les autres éléments de la track, puis sur un système de son de club, ça pardonne pas. Si ton mix est vraiment trop fort dans certaines basses fréquences, ça va complètement noyer tout le reste, puis il n'y a rien à faire pour le récupérer.
Oui, puis typiquement, c'est les 30 Hz sont durs à gérer, les 60 dans ce coin-là, puis le kick, puis la basse qui se battent ensemble, etc. Je ne veux pas entrer trop technique, mais tu travailles-tu avec des compresseurs multibandes, par exemple, pour jouer à ça, ou si tu vraiment plus les cues? Comment tu fais? Ben, en plus, chez vous, j'imagine que, à moins que tu aies un sub, peut-être, quand tu mixes, qu'est-ce que tu utilises comme outil pour justement avoir une idée de ce qui se passe dans les graves?
Mmh. Ben, en fait, je dirais que ça se fait de manière visuelle beaucoup aujourd'hui. Là, puis c'est comme ça que je dirais que beaucoup de jeunes producteurs avec peu de moyens ont réussi à faire leur place puis à faire des tracks qui avaient un son incroyable, alors qu'on se rendait compte a posteriori qu'ils avaient fait ça sur des speakers complètement horribles ou des petits écouteurs tout croche sur un laptop, n'importe comment, mais qu'ils utilisaient leurs yeux pour faire le mixdown avec des outils justement des
EQs,
spectrum analyzer, tout ça. Et ils savaient de quoi avait l'air visuellement une tune qui sonne bien dans la musique techno. Et ils ont été capables de le reproduire même s'ils n'avaient pas un système de son digne de ce nom.
Okay.
Et ça, je trouve ça quand même fascinant parce que justement, on a toujours dit, bon, pour faire un bon mixdown, ça te prend une pièce qui a une bonne acoustique, des bons moniteurs, juste les bonnes fréquences, pas trop de shack, tout ça. Mais ultimement, je me suis rendu compte que de mes productions préférées des dernières années, qui ont été faites sur des systèmes de son de marde, mais que les producteurs avaient vraiment trouvé une façon visuellement d'aller chercher ce mixdown.
Puis toi, tu fais comment personnellement?
Juste une petite question par rapport à ce que tu dis. Visuellement, tu veux dire en regardant comment ça se passe dans le jeu des fréquences là, avec les formes d'analyse spectrale visuelle.
Ouais.
OK, parfait.
Donc, ils savaient, ils sont capables de faire leur EQ, par exemple, pour la bass, pour le kick, mm-hmm. tout ça. Ils savent de quoi c'est supposé avoir de l'air. Et aussi, c'est une question de connaître son système de son aussi en écoutant beaucoup, beaucoup de musique dessus. Donc, ultimement, c'est un système de son poche. Et bien, tous les hits qui sonnent dans ton système de son poche, c'est capable de reproduire à peu près ce son-là. Tu vas sonner comme le hit, ultimement. Mais bon, ça demande des fois beaucoup plus de finesse que ça, là, mais c'est un peu ça la clé. Je pense que la clé, c'est beaucoup de très, très bien connaître son système de son. Ses forces et ses faiblesses. Mais bon, après ça, il y a toujours, comme je disais, la question de le test dans le club, que ça, il y a aucun équivalent. Là. Tu ne pourras pas le reproduire mm-hmm. dans ton char, dans tes écouteurs, dans tes moniteurs.
Mais avec un référent visuel constant est très important là, dans le travail d'équilibrer tout ça.
Ouais, un truc aussi qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça utilisé dans d'autres styles musicaux, mais il y a un produit qui existe sur le marché depuis quelques années qui s'appelle un sub-pack. C'est une espèce de veste, si on veut, qui est branchée sur le système de son et qui, au lieu de faire sonner les basses fréquences, ça va te les faire ressentir. Donc ça, c'est comme si toute l'espèce de veste que tu portes, elle va vibrer au rythme des basses fréquences. Donc, pour aller faire le mixdown de tout ce qui est vraiment très, très, très bas, que normalement, on n'entendrait pas dans notre système de son de maison et qu'on sentirait dans le club, ce truc-là va le reproduire. Donc, il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui utilisent ça pour essayer de bien calibrer leur très basse fréquence puis d'aller jouer avec la partie comme ressentie du mixdown qu'on n'entend pas, mais qu'on sent.
Donc, c'est un mix haptique, en fait, que vous faites, mais ce que je trouve intéressant, je trouve ça vraiment intéressant, puis j'imagine que aussi, tu peux t'écoutes des références, des tracks de références, j'imagine, puis là, tu regardes comment tu les sens, comme on le fait quand on regarde comment se répartissent les fréquences dans le spectre. Mais là, tu les sens, puis tu dis « OK, moi, je vais tuner le mien pour que ça soit à peu près la même affaire. » Fait que non, je connaissais pas ça. Puis,
quand j'ai entendu parler de ce truc-là en premier, je me disais « Bon, ça va être une autre gimmick, tu sais, que ça va changer, ça va tout changer. » Puis j'étais très sceptique, puis je me disais « Bon, OK, c'est correct, ça va shaker, puis tout, puis ça c'est bien beau. » Mais des producteurs, puis ingénieurs de son que je respecte beaucoup, il y en a qui ne jurent que par ça. Puis ils disent que ça permet vraiment d'aller précisément améliorer leur mix des basses fréquences. Alors que moi, je pensais que ça n'aurait pas tant de précision que ça. Mais non, apparemment, c'est vraiment un outil très, très puissant.
Wow, c'est fascinant ça.
Je vais parle directement au corps. C'est intéressant, ça parle directement au corps. Mais moi, j'ai une autre, comment je pourrais dire, un autre type de question. Par rapport à bon, ça se passe dans tous l'évolution des différents styles, il y a une récupération qui se fait de la part du commerce, de la part de la télévision. Et on entend de plus en plus des musiques techno pour vendre une voiture, pour faire... Donc, au tout début, la musique techno était marginale et puis elle se dissociait complètement de tout ce qui pouvait être récupération commerciale, même si c'était une démarche qui était anticommerciale. Mais là, il y a comme une bête qui est apparue. Comment tu vois ça, toi, Jonathan?
Je pense que c'est un mouvement qui est un peu, dans le fond, pas une fatalité, mais en tout cas un mouvement irrésistible de tout ce qui naît dans l'underground au début va finir par s'approcher du grand public tranquillement. Il va en avoir là-dedans qui vont rester des purs et durs, qui vont rester avec une espèce d'éthique de l'underground, c'est-à-dire faut jamais qu'on sorte de notre cachette, et d'autres qui vont profiter, si on veut, de cette vague-là de toutes sortes de manières. Mais le fait que ça soit devenu plus mainstream avec les années, il y a du bon et du moins bon là-dedans, c'est sûr. Ça a tendance des fois à... En fait, c'est que ça va amener de la visibilité à la musique techno auprès du grand public. Par contre, des fois, ça amène une visibilité qui est un peu une espèce de parodie de ce que c'était en réalité, puis d'une mauvaise vision de qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce qu'il y a eu, dans les dernières années, un très, très gros boom de musique électronique dans les festivals aux États-Unis. Et ça, c'est devenu très, très populaire. Et des événements qui se remplissaient, là, des dizaines de milliers de personnes, avec un style de musique techno qui était très, très, très formaté, qu'on appelle du EDM, Electronic Dance Music, même si ça a l'air très vague comme terme, ça désigne quand même un certain courant très, très commercial de la musique électronique qui s'est développé dans les dernières années. Et ça a été finalement, pour le commun des mortels, c'était ça la musique techno. Alors que tous ceux qui proviennent de la scène rave, qui entendaient ça, ils disent « ben non, ça c'est une parodie de la musique techno ». Donc après ça donne des références un peu bizarres pour parler de ce style-là aux gens, parce que pour monsieur, madame, tout le monde, ben cette musique-là, c'est la musique bien énervée des petits jeunes qui est dans les festivals. Mais en réalité... il y a beaucoup plus que ça, puis il y a une histoire à cette musique-là, mais là, ça n'en vient qu'une variante très commerciale, n'en vient qu'à aller chercher tellement le spotlight que ça éclipse tout le reste et ça donne une mauvaise compréhension au public de ce que c'est vraiment.
OK, mais pour le bénéfice des auditeurs, un exemple que j'ai en tête, là, c'est David Guetta. Bon, David Guetta, hyper star, mainstream, si on veut, et tout ça, puis qui invite en plus des chanteurs-chanteuses connus comme Zia, mais, ou encore, Daft Punk, c'est un autre cas particulier, mais parlons de Guetta, tu le caractériserais comment, son style à Guetta, par rapport à ce que c'est un exemple de quelque chose qui est justement... hyper mainstream, puis qui masque un peu le reste de la traîne.
Oui, un peu, mais en même temps, Guetta, ce qui est particulier, c'est que à la fois, justement, si on regarde la musique qu'il fait depuis quelques années, très, très mainstream, très commercial, mais Guetta, c'est quand même un produit des premières générations de la scène rave du début. Et son style a évolué avec le temps, puis il a décidé d'embrasser un son beaucoup plus pop, beaucoup plus accessible pour des raisons peut-être pas pour faire des sous, mais peut-être aussi parce qu'il aime ça carrément aussi, là, ça se respecte. Mais donc, il y a à la fois en lui cette espèce de connaissance des racines, mais il porte aussi l'espèce de perversion de la musique techno. Donc, il y a comme les deux côtés. Mais bon, dans la musique qu'il faut aujourd'hui, il est rendu résolument pop. Donc, c'est sûr que ça donne peut-être une image un peu faussée aux gens de ce que c'est la musique techno. Mais pour moi, c'est de la musique pop, là, ce que David Guetta fait aujourd'hui.
Ça ressemble à un crossover, hein, Serge?
Oui, exactement. Mais je pensais justement aux auditeurs que dans ce temps-là, quand tu as un artiste comme lui, ça, parce que bon, il a proche de 50 ans, probablement, il est pas loin, il est assez vieux là, pour un artiste de ce genre-là. Puis si tu recules dans le temps, mettons que tu vas sur Spotify puis tu écoutes ces choses, puis tu recules dans le temps, ben là, tu vas avoir accès comme peut-être plus à de plus en plus un techno, plus, je dirais, plus, je sais pas, comme original ou en tout cas plus proche de la source à mesure que tu recules dans le temps en écoutant en recréant sa propre trajectoire, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jonathan?
Oui, effectivement, c'est sûr qu'on écoute, mettons, chronologiquement, mm-hmm. les sorties musicales bon, de Ghetto ou de n'importe quel producteur. À un moment donné, tu vois un peu l'histoire, là, tu vois mm-hmm. un peu le chemin mm-hmm. qu'ils ont parcouru eux-mêmes. Puis ça serait vrai aussi avec ma musique à moi. Là. Des fois, j'écoute la musique que je faisais il y a 15 ans, puis ce que je fais aujourd'hui, puis je vois un peu le chemin parcouru. Puis si tu les mets dans l'ordre, tu vois vraiment les pas un après l'autre, un derrière l'autre.
Ben, d'ailleurs, il y a un autre genre moi qui m'a beaucoup intrigué quand il est apparu, puis qui est devenu mainstream maintenant, puis qui a traversé dans le rock avec un groupe comme Muse, c'est le dubstep. Puis le dubstep, est-ce que toi, t'associerais ça quand même comme une espèce de genre de techno, ou si tu l'associerais plus avec un autre genre musical?
Ben, c'est dans la grande famille, je dirais, là. C'est un des millions de branches.
OK.
Puis ça aussi, le dubstep, c'est quelque chose qui est commencé, je dirais, de manière quand même assez underground, mm-hmm. qui était vraiment un courant dans la musique techno qui était pas du tout appelé à devenir mainstream. Puis les producteurs là, de cette musique-là, d'ailleurs, avaient une espèce de vision ou d'éthique de la musique qui les amenait à rester loin un peu du spotlight. Mm-hmm. Puis finalement, ce qui est arrivé, le style a été catapulté dans l'avant-scène avec des artistes comme Skrillex qui ont pris peut-être la base du dubstep et qui l'ont passé dans le broyeur, puis rajouté 12 couches de distorsion dessus. Puis bam, ça a fait un produit qui était calibré pour les gros festivals, les gros événements avec des jeunes en manque de sensations fortes.
OK, je comprends.
Et tu me corrigeras, Joe. Bon, le point de départ de tout ça demeure afro-américain, c'est-à-dire que ça se passe à Détroit, ça se passe dans les coins reculés des villes, dans les ghettos, et c'est les Africains-Américains qui commencent à bidouiller avec leur système de son portatif, tout ça, puis ils jouent avec ça, et puis là, comment tu fais le lien avec ce point de départ-là, et là où on en est actuellement, qui est une musique qui appartient à tout le monde maintenant, auquel les nouvelles générations s'identifient, mais quelle que soit la couleur de peau. Là.
Mais juste avant que tu répondes, Jonathan, mm-hmm. moi, il y a aussi la racine britannique là, de Bristol, puis le house, puis tout ça, qui était peut-être afro-anglais, mais pas seulement. En tout cas, je ne sais pas, j'ai hâte de t'entendre là-dessus.
Mais en fait, l'histoire de la techno, c'est vraiment une histoire d'échange entre... Si on prend les racines, vraiment, si on remonte à loin, puis Gérald va sûrement hocher de la tête, puis dire, ben oui, évidemment, que c'est de la musique africaine. Là, mm-hmm. C'est carrément de la musique noire. Puis c'est la techno et la house viennent des États-Unis. Ça a été créé par des Noirs. Donc, la house venait de Chicago. Et la techno venait de Détroit. Et par contre, ce qui est particulier, c'est quand c'est bon, la house avait une certaine popularité, mais encore là, c'était quand même, ça restait relativement limité. Même chose pour la techno, qui avait un cercle, je dirais, assez restreint de diffusion. Et là où ça a explosé, c'est quand cette musique-là a traversé la frontière. Et la musique techno s'est retrouvé entre les mains de DJ en Europe et justement en Angleterre. Et eux autres se sont mis à mixer ça là-bas, et il y avait des milliers de personnes qui dansaient là-dessus. Et les producteurs qui faisaient cette musique-là ici en Amérique avait pratiquement aucun public et avait absolument aucune idée qu'il y avait des milliers de personnes qui dansaient sur leur musique en Europe. Et justement, les pionniers de la techno, comme Jeff Mills, par exemple, de Détroit, qui du jour au lendemain se faisait appeler par des organisateurs d'événements en Angleterre pour leur dire « Est-ce que tu viens jouer un show ici? On va avoir 10 000 personnes pour écouter ta musique. » Alors que ça aurait été tout à fait impensable pour eux autres de mixer chez eux devant plus que 200 personnes.
T'sais. Ouais.
Donc, il y a vraiment eu une espèce d'échange. Donc, c'est retourné en Angleterre et en France, alors que c'était né ici, mais le vrai boom de popularité s'est fait quand la musique est partie d'ici et est retournée en Europe. Et après, il y a eu une espèce de mouvement encore dans l'autre direction. L'arrivée vers le mainstream s'est faite lorsque la musique est retournée aux États-Unis. Il y a peut-être 5 à 10 ans, et c'est là que ça s'est mis à devenir très, très populaire dans les gros festivals et qu'on s'est retrouvé avec un son très, très calibré, très pop. Donc, il y a vraiment eu une espèce de boom. La musique techno est rentrée dans l'esthétique de Las Vegas. Puis, je dis ça un peu à la blague, mais en même temps, c'est vrai aussi parce que c'est dans un endroit où il y avait des gros événements, des gros festivals il y a quelques années où ce nouveau style-là était comme consacré, si on veut. Okay, et après ça, ça a fait une traînée de poudre un peu partout aux États-Unis. Et donc, il y a eu, bon, si on récapitule vite, c'est né un peu dans l'underground ici en Amérique. C'est en Europe après que ça a explosé, puis les producteurs ici étaient sidérés de voir qu'il y avait autant de fans à leur musique outre-Atlantique. Puis après ça, la musique est revenue ici son dernier boom, je dirais, qui l'a amené dans l'ère commerciale.
Okay.
C'est intéressant, parce que je trouve que ça ressemble au phénomène du rhythm and blues. Rhythm and blues, ça part aux États-Unis, ça débarque en Angleterre et ça sort via les Beatles, ça devient international. On voit le même phénomène aussi avec les chansonniers québécois. À partir du moment où ils sont passés par l'Europe, ils sont devenus des vedettes ici. Mais avant, Félix Leclerc, par exemple, il était pratiquement boudé ici. Mais à partir du moment où il était reconnu de l'autre côté, bang, ça a explosé de ce côté-ci, oui, en même temps.
Oui, tout à fait. Puis en fait, bon, on dit souvent que nul n'est prophète dans son pays. Puis c'est vrai dans la musique aussi. Je prends par exemple un de mes amis, Fik, qui est un producteur de musique qui est très, très, je dirais, très pointu quand même ici, qui n'avait pas un très large public il y a quelques années, mais qui s'est fait connaître parce que il s'est mis à sa musique, il s'est mis à sortir sur des labels en Europe, il est allé mixer là-bas, il a joué à Berlin, il a rencontré des grands producteurs. Puis après ça, il est revenu au Québec, puis il était quelqu'un, tu sais. Il n'aurait pas pu faire ça juste en étant ici.
J'aimerais revenir un peu sur le parcours, parce que je trouve ça super intéressant, mais je pense qu'il... Bon, oui, c'est sûr, afro-américain au départ, en particulier par le disco, par le funk, le disco, le R&B, mais le disco parce que les DJ s'est apparu aussi un peu dans les discos qui étaient à l'époque underground, là, parce que c'était les Noirs, les Hispanos, puis les gays, puis tout ça qui était ensemble.
C'est
ça, puis YMCA, c'est bon.
La marge.
Déjà, c'était plus la marge. Mais bon, il y a ce côté-là, puis qui s'en va. Mais il y a aussi le côté électronique en Europe, je pense même à la musique électroacoustique, à la musique électronique, mais en plus, après ça, Kraftwerk, puis le krautrock aussi, donc bien avant l'arrivée du house. Là, donc, il y a dû avoir ce mélange-là aussi, quelque part, quand c'est revenu, que ça a dû influencer. Là.
Mais si on regarde la house, elle, c'est comme le bébé plus du disco. C'est vraiment comme en droite ligne avec le disco. Mm-hmm. Puis la techno, elle, c'est vraiment un peu le bébé de justement le krautrock et Kraftwerk. Si tu regardes les premiers producteurs de techno à Détroit, ils étaient obsédés par Kraftwerk. Puis ils vont toujours les citer comme étant une de leurs plus grandes influences. À leurs yeux, il n'y a pas bien ben mieux que ça. Donc, il y a eu justement, la techno est une musique noire, mais qui a été quand même largement influencée par ce groupe allemand-là.
OK, super. Puis donc, c'est un phénomène semblable. Encore une fois, je reviens à ce que tu disais, Gérald. Si tu regardes, pas par les mêmes chemins, mais une espèce d'histoire de, entre guillemets, blanchiment de musique noire. Si on regarde le R&B, qui s'appelle rock'n'roll, quand justement on commence à mettre un peu d'ingrédients country, ou en tout cas des artistes country, ou quelque chose, un mélange du R&B avec un petit peu d'éléments country.
Le rockabilly.
Puis, oui, voilà. Puis ensuite, bon, ben là, arrivent les vedettes comme Elvis Presley, qu'on prend le temps de bien identifier indirectement comme étant blanc, malgré tout, qui fait de la musique qui sonne tout à fait comme le R&B. Puis, bon.
Ça a été un scandale, d'ailleurs.
Ben oui, exact. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette espèce de rencontre-là dans un corps. Oui, scandaleuse d'une certaine manière, parce qu'à l'époque, les gens pouvaient pas, c'était très difficile pour les parents, mettons, des enfants qui écoutaient du R&B, qui était de la musique noire, d'accepter ça. Mais je sens pas cette même tension-là qui serait survenue dans la trajectoire du techno. À moins que, c'est justement, je te pose la question, Jonathan, pour voir, est-ce qu'il y a eu ces tensions-là ou pas, ou moins?
Ben, je sais pas si on y est question de tension, mais clairement, il y a eu un échange, je dirais, noir-blanc, qui a vraiment été caractéristique. Justement, autant justement des groupes blancs ont influencé les noirs dans la création de la techno, autant après ça, ils l'ont renvoyé aux Européens qui eux l'ont popularisé. Donc, cette musique-là, c'est vraiment une histoire d'échange entre les différentes cultures. Puis, ça pourrait pas être devenu ce que c'est devenu sans la part de l'un et de l'autre.
Ça, c'est intéressant parce qu'on
voit... C'est comme l'histoire du rock, dans le fond, parce qu'on part dans le gospel, qui est déjà un syncrétisme entre des éléments venus d'Afrique et des éléments américains via l'Église. Et après ça, donc, ce syncrétisme-là va continuer à évoluer avec des contacts avec les Blancs. Il y a toujours une transformation qui se fait de décennie en décennie.
Mais moi, je vois quelque chose de... Un peu différemment, Gérald, je comprends que oui, il y a un processus semblable, mais moi, c'est l'éthos, l'attitude que je trouve différente, puis qui se reflète encore aujourd'hui dans l'esprit communautaire dont on parlait. Est-ce qu'il n'y a pas justement là, dans cette musique-là, puis dans ceux qui la faisaient, déjà une ouverture qui était peut-être moins présente dans les autres couches ou dans les autres genres, peut-être pour des questions de génération, des questions de classe sociale, je ne sais pas pour quelle raison, mais qui avait justement, on voyait ça comme un échange et non pas comme de l'appropriation, par exemple, ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà ça dans l'esprit?
C'est une bonne question.
Mais je pense que quand cette musique-là est née là, dans les années 80, on était très très loin du concept d'appropriation culturelle. Je pense qu'on était encore à une époque de métissage sans trop se poser de questions. On prenait des éléments à gauche à droite. Il y a beaucoup de, en fait, autant dans la naissance de la musique techno et house que après par la suite. Puis ça a fait partie un peu. Je dirais de l'ADN de cette musique-là, l'espèce de droit qu'on se donne de réutiliser les choses et qui dont la forme ultime est le sampling, qui a été très, très, très central à cette musique-là. Et il y a une espèce de... on se donne le droit de prendre ce qui existe puis de le rejouer avec puis de refaire de quoi de nouveau avec. Ça fait partie de la culture puis de l'ADN de la musique techno.
Intéressant, ça fait partie du processus créatif, mais c'est volontaire de vouloir justement que l'autre participe à ta création, alors que le concept d'appropriation, qui est quand même assez récent, et surtout plus sensible depuis quelques années, puis on sait pourquoi, ce concept-là n'est absolument pas applicable à l'état d'esprit, si on peut dire, dans lequel le techno a évolué.
Puis ce que je dirais en plus, c'est que, en tout cas, moi, ça me donne le goût, j'espère aussi aux auditeurs, d'en savoir plus sur le techno, parce que pour moi, ça a l'air d'une musique plus rassembleuse. C'est ça que, le point, c'est une musique où tu disais, Gérald, au début, joyeuse et tout ça, mais il y a quelque chose de rassembleur dans cette musique-là, autant comment les gens sont, qu'est-ce qu'ils en font, que comment elle est faite. Puis ça, je trouve ça fascinant. On retrouve ça aussi un peu dans les pop aussi, mais c'est, on va dire, quand même un peu plus... c'est très ouvert, mais à l'intérieur d'une culture peut-être moins diversifiée que, en tout cas, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque. Alors que là, c'est dans les gènes à peu près dès le départ de ce genre-là. Fait que je trouve ça fascinant, puis ça donne envie justement d'aller voir le plus loin. Tu sais, par exemple, il y a un livre qui est fabuleux, là, c'est « How DJ Saved My Life ». Je me souviens plus son nom, mais qui raconte un peu l'histoire là-dedans de... du techno, d'électro, mais aussi surtout des racines de ça dans le monde du disco aux États-Unis. Puis ensuite, bon, les voyages dont tu as fait part, fait qu'on mettra peut-être un lien aux
Sinon, un autre bon livre que j'aurais à proposer, c'est le livre Électrochoc de Laurent Garnier, qui est un des grands producteurs de musique électronique qui est encore aujourd'hui très actif, qui a réussi à rester pertinent avec les années, mais qui, là, depuis les tout débuts de la scène rave, dans les années 80, il jouait dans les premiers gros événements en Angleterre et en France. Donc, il était témoin de toute cette effervescence-là, mais toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Et dans son livre « Électrochoc », il fait un peu l'histoire de la musique techno, mais vue de ses yeux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu lis son livre, il y a dans les marges une playlist qui est associée à peu près à chaque moment.
Ah, c'est bien.
Donc, il parle d'une soirée dans un club, puis tu regardes en marge les chansons qu'il jouait à ce moment-là. Donc, c'est très, très imagé aussi, la façon qu'il parle la musique, mais après ça, tu peux l'écouter en même temps pour t'imprégner de l'ambiance.
Comme une espèce de... Quand on était jeune, là, on avait des livres qu'il y avait des petits enregistrements ou des petites cloches pour changer de page. Mais là, ben, on met les playlists avec. Non, mais c'est vrai, j'ai un autre livre aussi qui s'appelle « Every Song Ever ». Puis c'est la même chose, ils mettent une playlist à la fin du chapitre pour toutes les pièces dont il a parlé dans chacun des chapitres. Non, c'est très intéressant, ça. Puis on va certainement mettre les liens pour les auditeurs. Merci beaucoup.
Je pense que c'est un des seuls livres que j'ai lu deux, trois fois au moins.
Ah oui, OK.
Ah oui, ouais.
Super.
Non, parce qu'à un moment donné, tu le relis, puis ça t'amène d'autres affaires que tu n'avais pas vues, puis tu redécouvres d'autres musiques aussi, où ça te rappelle des choses. C'est comme, ouais. C'est vraiment très, très riche.
OK. Ben, merci beaucoup. Ben, écoute. Donc,
d'ailleurs, je pense qu'il est en train de faire un film basé là-dessus, qui va nous amener un peu dans ses yeux.
Une espèce de documentaire, OK.
Ben, je pense que ça va être une espèce de peut-être de genre de docu-fiction. Je pense que c'est
ça.
Ben, c'est qu'on va. Je pense qu'on va revoir cette histoire-là, mais vue de ses yeux. Donc, évidemment, ça va être en très, très accéléré. Mais ça va vraiment nous plonger là, dans les débuts de la scène rave, fin des années 80.
À suivre.
Hey, Jonathan, ça a été vraiment super de discuter avec toi. Ça nous a éclairé beaucoup, nous, ceux d'une autre génération, mais quand même, qui se frottent quand même à cette musique-là indirectement, puis des fois un peu plus directement, parce que, bon, soit parce qu'on a des étudiants puis qui en font puis qui en écoutent, ou soit parce que évidemment on en entend. Même des fois, j'en fais moi-même un peu dans le genre, mais là, ça nous met vraiment plus dans l'ambiance générale d'un genre souvent méconnu, en fait, peut-être plus quand, si on veut vraiment l'approfondir. Fait que merci beaucoup, puis on va sûrement répéter l'expérience pour peut-être aller plus loin dans ta propre musique, tu sais, qu'on pourrait même entendre pendant le podcast, là, parce que puisque c'est toi qui détiens les droits, on aurait le droit comme ça de la partager, puis on pourrait en parler plus spécifiquement. Fait que si t'es d'accord, on pourrait te réinviter pour faire une expérience comme ça musicale.
Ben oui, ça me ferait bien plaisir d'être de passage à nouveau. D'ailleurs, ça a passé super vite, puis j'ai l'impression qu'on faisait juste commencer à gratter le début du sujet, puis qu'on aurait pu continuer encore longtemps.
C'est multidimensionnel, il y a tellement d'aspects qu'on peut toucher. Mais effectivement, en tout cas, on est vraiment content. Au moins, on a mis la table Et ça va permettre à nos auditeurs là, d'approfondir un peu ce qui se passe dans une scène qui nous apparaît un peu abstraite à prime abord.
En fait, je pense que c'est une scène vue de l'extérieur qui a l'air relativement superficielle, mais quand on y plonge, on se rend compte qu'il y a vraiment une richesse dans tout ce qui existe dedans, tant en termes d'histoire qu'en termes de son. Là. Donc, ça peut partir dans plein de directions.
C'est vraiment ce que tu nous as fait découvrir, Jonathan.
Exactement. Fait que merci beaucoup, Gérald. Merci beaucoup, Jonathan. Puis, Gérald, on se reparle la semaine prochaine.
Exactement. Et puis, Jonathan, on se reparle très bientôt aussi.
Yes, merci à vous.
OK, très bien.